Bonjour à tous et à toutes. Ce que vous allez écouter est un enregistrement réalisé durant les actes du premier colloque organisé par le Laboratoire des Imaginaires, un événement intitulé Espace Imaginé.
Alors, qu'est-ce que le Laboratoire des Imaginaires ? Eh ben, on est une association basée à Rennes qui valorise la recherche sur les cultures de l'imaginaire. On parle de jeux vidéo, de romans, de fantasy ou de SF, de bandes dessinées, de cinéma.
On s'efforce de déclencher des rencontres entre les jeunes chercheurs dans ces domaines, d'organiser des événements comme le colloque pour permettre un regard interdisciplinaire sur le sujet et surtout de faire en sorte que ces travaux ne restent pas uniquement dans les murs de l'université mais soient accessibles à tout le monde.
Alors pour ça, on a donc prévu de publier les actes du colloque sous peu. Il y aura un format papier qu'on compte diffuser grâce à un système de prévente qui se tiendra sur les mois de juin, juillet et août 2020. Et on les diffusera également gratuitement en ligne pour permettre à chacun d'accéder à ce travail.
Dans la même optique, on vous partage aujourd'hui l'enregistrement de la communication de Manon Tardy, intitulée « Les cités orbitales dans les œuvres d'anticipation, politique de gérance de l'espace et conditions de vie en milieu urbain clos ». On espère que ça vous plaira et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours.
A très bientôt et bonne écoute.
So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on Earth, these words cannot be useless.
Mais déjà, merci de m'avoir invité à votre colloque. En plus, sur la littérature de l'imaginaire, donc c'est pas souvent. J'étais très contente de le voir sur Fabula apparaître. Et sinon, je suis du même avis que Esteban pour voilà, tous les remerciements au début, pour vos mails, etc., sur tout ce qui se passait. Enfin, voilà, je vais rien rajouter, sinon ça va durer longtemps. Alors moi je fais ma thèse sur les représentations de l'Anthropocène dans les romans d'anticipation anglais et français de 1803 à nos jours. Les stations orbitales ne font pas du tout partie de ma thèse. Par contre, on va voir qu'il y a quand même des liens en fait entre notre Terre et les stations orbitales. Le titre n'est pas le même que celui sur votre plaquette parce que en 5 mois ça a changé. Et je ne parle pas tellement de cités, enfin, de milieux urbains dans le sens sociologique. Je vais plutôt parler de stations, donc ce ne sera pas exactement la même chose. Que nous réserve l'avenir ? Suite aux feux australiens, directement provoqués par le changement climatique, à l'extinction des espèces animales, à la fonte des glaces et à la montée des eaux, il peut être tentant, voire logique, de regarder vers les cieux si la réponse à tous nos problèmes s'y trouve. Or, la littérature d'anticipation permet de nous offrir l'aperçu d'un futur probable où l'humanité se réfugierait hors de notre planète. Mais cette littérature n'a pas visé à être prophétique, c'est même tout son contraire. Les auteurs d'anticipation écrivent régulièrement en postface qu'ils espèrent que leurs enfants ne verront pas ces événements se passer. Ils analysent un fait contemporain, en extraient ceux qui les intéressent ou leur font peur, l'amplifie afin d'observer ce qui pourrait arriver et de le dénoncer avant qu'il ne soit justement trop tard. Donc 1984 d'Orwell ou Les monades urbaines de Robert Silverberg en sont des exemples frappants. Alors bien sûr, par anticipation, je parle aussi de science-fiction, même s'il ne faut pas toujours confondre les deux. Mais pour mon sujet, les deux fonctionnent très très bien ensemble. Donc je me suis posé les questions suivantes. Que nous réserve le futur si la planète devenait hostile à l'homme ? S'échapper est-elle une solution ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du possible ? Et quelle critique de la modernité y voit-on ? J'ai souhaité réduire mon sujet, qui est très très vaste, aux récits qui mettent en scène des stations orbitales géocentrées, donc autour de la planète. Donc pas de vaisseaux coloniaux, de transports ou de guerre, même si j'y ferai allusion ponctuellement. Et une localisation géographique familière, notre système solaire. Tout cela pour nous permettre d'avoir la vision d'un futur le plus proche possible. Et afin de proposer une étude comparative, parce que c'est ma recherche, enfin je suis en littérature comparée, basée sur la représentation, 3 médias de 3 nationalités différentes ont été sélectionnés. Le roman « Avec ciel brûlant de minuit » de l'auteur américain Robert Silverberg, donc de 94. La BD française « Avec Shangri-La » j'ai plus la date, je crois que c'était 2016, Shangri-La de Mathieu Bablé, et le long-métrage sud-africain Elysium de 2013. Et d'autres références viendront bien entendu s'ajouter pour appuyer mes propos. Donc tout d'abord, nous analyserons les stations en tant qu'objets, leur taille, leur forme, leur capacité, leur fonctionnement, ainsi que les possibilités d'une telle construction par l'homme, Dans une seconde partie, il sera question de l'espace en tant qu'espace de contrainte, à partir duquel nous interrogerons le modèle sociétal, économique et politique. Et enfin, nous admettrons les échecs systématiques de ces espaces fictionnels et la raison de ceci. Je vous propose dès à présent de vous amener faire un tour dans les étoiles où l'utopie n'est pas toujours celle que l'on croit. Les stations-nations, donc terme utilisé par le juriste et écrivain de science-fiction Hugo Belengaba, servent à désigner ces cités orbitales qui n'abritent pas quelques individus, mais des milliers. Celles-ci sont pratiquement toujours représentées sous forme de roues, la Rotating Wheel Space Station, ou station spatiale en forme de roue tournant sur elle-même, c'est moins joli en français, qui est décrite depuis 1903 par Konstantin Tsiolkovsky, un scientifique russe théoricien de l'astronautique, qui a l'idée d'une rotation avec gravité artificielle, de l'utilisation de l'énergie solaire et d'un espace pour serre, pour tenir une serre, avec écosystème fermé. Donc en 1903, il avait tout prévu. Dans les années 1950 aux États-Unis, grâce à la popularité des pulp fiction de science-fiction, d'autres modèles dérivés de l'idée originelle de Konstantin Tsiolkovsky apparaissent. La plus connue est la Von Braun Wheel, d'après le modèle de l'ingénieur Werner Von Braun, qui à l'époque avait collaboré avec Walt Disney et donc a bénéficié d'une large visibilité grâce à une série de films courts. Il a également inspiré Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick pour le chef-d'œuvre 2001 L'Odyssée de l'espace. Mais cette forme n'est pas qu'un choix esthétique, c'est aussi un choix performatif. Dans le roman de science-fiction Le vieil homme et la guerre de John Scalzi, un des protagonistes, physicien de son état, donne une explication à l'intérêt d'utiliser la roue plutôt qu'une autre forme. Le problème, donc de ne pas avoir la roue, c'est que ça représente un gaspillage formidable d'énergie. Et dans la plupart des situations où la gravité artificielle est indispensable, il est plus simple et beaucoup moins onéreux de créer une roue, de la faire tourner et de maintenir ainsi les gens et les objets dans la jante intérieure. Une fois qu'on l'a fait tourner, il suffit d'ajouter une énergie minimale dans le système pour compenser la friction, contrairement à la création d'un champ de gravité artificielle qui nécessite une alimentation constante et conséquente en énergie. D'ailleurs, j'ai lu quelques travaux de scientifiques qui disaient que la gravité n'était pas réglée, n'avait pas la même densité en fait entre le centre de la roue et la bordure forcément. Donc cette roue rotative est une telle constante dans la littérature d'imaginaire qu'il est très rare d'observer une autre forme. Pourtant, il arrive de se la représenter autrement, par exemple dans la bande dessinée Shangri-La de Mathieu Bablé, qui dessine la station spatiale de Tianzhou Enterprise en s'inspirant de l'ISSS, l'International Space Station, dans une vision très contemporaine du futur. En haut à droite, vous avez la Tianzhou Enterprise, et en bas, vous avez l'ISS, donc avec les mêmes panneaux dorés, etc., à peu près là, une forme qui ressemble, en tout cas qui n'est pas circulaire. D'ailleurs, les sources d'inspiration de la BD sont des clichés de la Terre par la NASA. Donc on sent qu'il s'en est bien inspiré. Et d'ailleurs, il est bien plus réaliste de voir advenir cette forme dans le futur que la roue, car nous n'avons pas la technologie nécessaire à disposition. Ni d'après la NASA qui a fait un rapport là-dessus dans les années 70, les moyens financiers. De plus, il serait impossible d'y faire vivre une population cosmopolite, en témoigne cette analyse d'Hugo Belengaba. Les quelques touristes spatiaux, moins de 10, qui ont payé leur billet de leur propre poche en n'étant rien d'autre que des charges utiles, ont payé 20 millions de dollars la mise en orbite. On imagine le nombre de personnes capables de payer sans broncher une telle somme pour un petit séjour dans un hôtel orbital. On peut imaginer que les coûts diminueront, mais cela restera uniquement accessible pour des gens vraiment riches. Des projets existent, beaucoup plus spéculatifs. Il y a l'idée d'un ascenseur spatial qui acheminerait depuis la Terre jusqu'à une station orbitale des astronautes ou du fret, à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres par heure. On pourrait envoyer plusieurs tonnes par heure en orbite. On sait penser un tel engin. Il a été mis en scène dans deux romans de science-fiction, dont Les Fontaines du Paradis d'Arthur C. Clarke. Mais cet objet reste techniquement si complexe qu'il est pour l'instant impossible à réaliser. Et ainsi avec Elysium, avec sa station réservée aux gens riches, pour ceux qui ont vu le film, je sais pas si vous voulez que je vous fasse le topo, mais je vais en parler un petit peu, donc l'histoire va se faire toute seule. Avec sa station réservée aux gens riches, se rapprocherait le plus d'un futur possible, avec un design inspiré de The Stanford Torus, Donc un design proposé par la NASA en 1975, créé spécialement pour la colonisation. Ce design est un habitat spatial capable de contenir entre 10 000 et 140 000 résidents. Donc le dessin en haut provient donc de ce qui a été commandé par la NASA en 75. Ça, c'est un habitat pour 10 000 personnes à peu près, qui ferait une douzaine de kilomètres, alors que la station Elysium, elle est plutôt dans les 20 kilomètres. Et on voit bien l'inspiration qui a été prise donc de Neil Blomkamp, le réalisateur, de ce projet de la NASA. La science-fiction reste donc plus spéculative que scientifique. Et je cite ici Jean-Charles Darmon, il lui donne raison. La différence entre le possible et le probable sera sans cesse brouillée sous la pression du fictif, la cinétique de son invention et les exigences poétiques propres à la fable. L'imaginaire de ces nations a ainsi une limite. Depuis un siècle, elles recyclent constamment les mêmes représentations. Mais cela permet de créer un espace vraisemblable. Et s'il est vraisemblable, il rend le fantasme plus tangible. Donc bien sûr, la question que nous posons est la suivante. Quelle vie nous attend dans ces stations-nations? Est-ce mieux que sur la Terre? Et la réponse pourrait être oui, mais... Hugo Bellagaba, encore, problématise bien les questionnements induits par la création de tels espaces. Cela étant, si un saut technologique ou un saut économique s'opérait, on pourrait tout à fait avoir des stations-nations. Ce que j'appellerais des nations de l'espace pourrait remplir un rôle au-delà de l'aspect purement scientifique. Cela relèverait du symbole, on pourrait avoir une vie communautaire dans l'espace. Une nation dans l'espace est donc tout à fait utopique aujourd'hui, mais on peut l'imaginer, cela peut être une façon d'imaginer notre avenir en tant qu'humanité. Dans la représentation des stations-nations, la symbolique utopique, pas forcément d'utopie qui... n'est pas sûr d'arriver, le non-lieu, mais plutôt le lieu de bonheur, est très présente car il s'agit justement de faire mieux que la Terre. Et surtout, de faire une éloge du progrès, de montrer la supériorité de l'intelligence et des avancées technologiques de l'humanité. Ainsi, Juanito, jeune adolescent, personnage de ciel brûlant de minuit, voit la station Valparaiso Nuevo, donc la vallée du paradis, qui est d'ailleurs une ville au Chili, voit cette station où il est né comme un lieu idyllique. Un soleil éblouissant se réverbérait sur le pourtour argenté du module d'arrimage et sur le gros axe cylindrique de la navette spatiale, fiché au centre du module comme une baguette dans un beignet. De l'autre côté de la paroi, les Dinko, donc ce sont les terriens en fait qui arrivent sur la station, fraîchement arrivés, passaient d'une démarche instable, sous le portrait resplendissant d'El Supremo, haut de 10 mètres, et pénétraient dans la salle de fumigation, une tente rouge en fibre de verre. Comme d'habitude, ils avaient des difficultés à s'adapter à la pesanteur, un 16e de celle de la Terre au maximum dans le moyeu. L'atmosphère aussi devait leur poser des problèmes. Elle était pure, riche en oxygène, sans saloperie. Alors qu'ils étaient habitués à la soupe immonde qui faisait office d'air pour les terriens, le poison qu'ils respiraient par la force des choses, chargé de gaz puants qui leur rongeaient les poumons et transformaient leurs os en gélatine. Pour rien au monde, Juanito ne voudrait poser les pieds sur la Terre. Qu'il voit comme une poubelle, une décharge, un enfer. De même, le nom de la station Elysium, dans le film éponyme, rappelle évidemment les Champs-Élysées. Un lieu des enfers où le héros vertueux goûte au repos après leur mort. La représentation des Champs-Élysées passe donc par des jardins lumineux, qu'on voit ici, des jardins lumineux dans Elysium et une meilleure qualité de vie dans Ciel brûlant de minuit. De même, dans Shangri-La, le protagoniste, Scott Péon, se convainc de sa qualité de vie et ne souhaite pas, au début de la BD, participer à une rébellion qu'il trouve vaine. Il vit dans un monde où l'État crée et répond aux besoins de la population. En effet, chaque citoyen bénéficie d'un emploi pour la société Tianzhu, consomme des produits Tianzhu, avec un salaire payé par Tianzhu, vivant dans une, je cite, « quiétude consumériste qui semble convenir au plus grand monde ». Donc, j'ai choisi cette bulle parce que il parle de société parfaite, donc il renvoie à une utopie. Bien sûr, on ne peut manquer de mentionner le film d'animation Wall-E des studios Pixar en 2008 avec la station-nation Axiom. À son bord, les humains sont représentés inactifs et obèses. Ils sont servis par des robots et n'effectuent presque aucun mouvement. La société By and Large est un monopole oligopole. Elle est représentée comme fournissant tout ce qu'il est possible depuis la construction, les transports, la nourriture, les chaînes de distribution, jusqu'aux vaisseaux spatiaux ayant servi à l'exil des humains. Dans leur vie quotidienne, des panneaux publicitaires sont installés partout au sein du vaisseau. Les humains sont régulièrement représentés avec une boisson ou de la nourriture à la main. Ils n'ont pas besoin de marcher et passent leur journée à se divertir au bord d'une magnifique piscine, nourriture à volonté. Encore une fois, nous voici avec une représentation du mythe de l'âge d'or antique, où les humains récoltaient le travail de la terre en se baissant, vivant dans l'insouciance et l'abondance. En conclusion, la science-fiction, l'anticipation, à travers une toponymie recherchée, Elysium, Valparaiso Nuevo, et puis je cite aussi la série de science-fiction des années 90, Babylon 5, utilise les mythes comme univers de référence. Dès le début de nos récits, la station renvoie un îlot paradisiaque flottant au-dessus de la Terre jusqu'à ce que la situation bascule. Ces stations, ce sont des espaces clos. Et quand on parle d'espaces clos en littérature, au moins trois topoi possibles s'imposent à nous: la prison, le jardin ou le refuge scolastique utopique type abbaye de Thélème. Ce qui fait la particularité des stations-nations est qu'elles renvoient à la fois à ces trois représentations de lieux communs. Si nous venons déjà de démontrer son caractère utopique, je vous propose de développer la prison et le jardin. Alors que certains romans ou films proposent des huis clos à bord de petites stations orbitales, notre concept de station-nation, lui, comme son nom l'indique, abrite une bien plus large concentration d'humains. Pourtant, malgré ce vaste espace, les notions de frontières et de limites restent primordiales. River Solomon, autrice féministe afro-américaine de science-fiction et d'afrofuturisme, donne sa vision de l'espace clos et du vaisseau dans une interview, qui a été traduite donc par les journalistes. Je me suis intéressée avant tout à ce que l'on peut ressentir lorsque l'on se retrouve totalement piégé. En temps normal, en tous les cas, pour la majorité d'entre nous, même quand il nous arrive quelque chose de désagréable, il y a des issues de secours. Nous pouvons nous échapper ou espérer changer de situation. Le vaisseau Mathilda, donc, qui est dans son livre « L'incivilité des fantômes », est une métaphore qui traduit cette sensation claustrophobique de ne pas pouvoir s'échapper d'une situation invivable et inhumaine comme au temps des plantations. Ainsi, le vaisseau ou la station peut devenir une métaphore de la prison, ou bien plus spécifiquement pour River Solomon, de l'esclavage, donc qu'on retrouve dans son roman. De même, l'espace de vie dans Shangri-La est également très clairement associé à la prison, où les appartements semblables à des cellules sont mis en perspective par les sorties des humains dans l'espace infini. Donc la page 49, on voit bien les deux bulles qui se suivent. D'un côté, on a les appartements, qui sont, comme vous le voyez, très très spacieux, où on ne peut même pas tenir debout. Et juste en dessous, Mathieu Bablé a fait le choix de montrer l'espace, pour bien voir la différence entre les deux espaces, justement. Bien sûr, nous pouvons voir des contre-exemples, comme dans Elysium, où c'est la Terre qui est une prison, et les riches s'en sont évadés, en fait, dans une station de meilleure qualité. Ou Ciel brûlant de minuit, où la station héberge des criminels en tout genre qui fuient le système judiciaire. Mais il est indéniable que ces deux stations renforment à leur sein une forme de criminalité. Nous avons déjà évoqué, sinon, le jardin des Champs-Élysées dans le film Elysium, mais pas le jardin dans sa fonction artificielle. En littérature, le jardin revêt de nombreuses formes. Un jardin produit. Il est créé par l'homme et entretenu par lui. Nous retrouvons assez régulièrement la mention de jardin artificiel dans les stations-nations et les vaisseaux en science-fiction. Donc je citerai Becky Chambers, le jeu vidéo Halo, etc. Avec parfois une fonction strictement utilitaire, nourriture, traitement de l'oxygène, ou poétique existentielle, nostalgie, esthétique, bonheur, méditation, contemplation. Le jardin est aussi une représentation de l'avancée technologique de l'homme, un moyen de prouver sa supériorité sur la nature, de la dominer, de mettre de l'ordre dans le chaos. Figé dans un espace de métal froid, par définition non vivant, la nature dite sauvage ne peut être présente sur une station. Il n'y a donc pas de possibilité d'évolution, si ce n'est par la science. Enfin, il ne faut pas oublier l'espace clos le plus représentatif et que l'on retrouve principalement dans l'art pictural, le bateau, d'où le nom de vaisseau spatial, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus. Comment s'organisent ces espaces clos? La critique de Shangri-La, du site de référence Sens Critique, qui m'a paru vraiment très très pertinente, relève très bien les similitudes entre la description de la société sur la station orbitale et la nôtre. Entre dystopie consumériste et critique des xénophobies et comportements ségrégationnistes, la vie et le fonctionnement de la station, dans Shangri-La, se présentent clairement comme le reflet de nos sociétés actuelles, nous y découvrons une sorte d'extrapolation crédible et convaincante de ce vers quoi nous mène notre quête de confort matérialiste, notre repli individualiste et nos besoins d'épanchement violents de nos frustrations. La dimension politique adopte des formes diverses et témoigne de la richesse de l'œuvre, critique de la société de la consommation, dénonciation des logiques d'exploitation et d'exclusion de certaines catégories d'individus ou réflexion sur les comportements des masses. On trouve des détails quotidiens, comme le rapport aux médias et à la publicité, etc. Donc, pourquoi est-elle, je cite, « crédible » et « convaincante » ? Car Mathieu Bablé a fait ce que j'appelle un glissement d'espace, tout comme le réalisateur d'Elysium, Neil Blomkamp. Il a pris notre société capitaliste et l'a déplacée dans une citation au milieu de l'espace. La taille des espaces réservés, en leur sein, de ces stations, est représentative de notre société. Très grande pour les puissants, dans Elysium et Shangri-La, étroite pour la masse prolétaire, pourtant majoritaire, aussi dans Elysium et Shangri-La. Nous observons toujours une forme de verticalité avec une lutte des classes sociales haut et bas dans Elysium, Shangri-La et l'incivilité des fantômes. Donc, dans la bulle à gauche, on a le pouvoir politique qui est en haut d'une tour, en hauteur, et puis là, dans Elysium, on a le patron qui a un bureau qui est tourné dos à la masse prolétaire qui travaille à l'étage en dessous. Et son bureau fait, je sais pas combien de mètres carrés, mais c'est pour tout seul, alors qu'il est tout seul. On reproduit donc le même un système actuel, mais en le déplaçant dans une échelle réduite, celle des stations. La station serait donc une petite planète, dans ce cas la nôtre, et montrerait plus facilement ses limites et la finitude de la fameuse croissance capitaliste. Elle met en valeur la scarcity. Donc pour les Américains, c'est un mot pour parler du manque de ressources en général. Et cette forme d'économie a d'ailleurs été théorisée par Kenneth Boulding sous le nom de la Spaceman Economy, donc que j'ai traduit comme économie du spationaute. Je pourrais vous en parler plus tard, là j'ai pas trop le temps. Il met ça en relation avec l'économie, la cowboy economy. Une économie ouverte hein, dans des grandes plaines où les gens peuvent se permettre la violence, peuvent prendre ce qu'ils veulent, revendre ce qu'ils veulent, faire comme ils veulent. Et donc la Spaceman Economy qui est une économie fermée. Donc je cite ma traduction. L'économie fermée de l'avenir pourrait également être appelée l'économie du spationaute dans laquelle la Terre est devenue un vaisseau spatial sans réservoir illimité de quoi que ce soit, soit pour l'extraction ou pour la pollution, et dans lequel, par conséquent, l'homme doit trouver sa place dans un système écologique cyclique capable de reproduire en permanence la forme matérielle, même si elle ne peut échapper à des apports d'énergie. Ainsi, l'économie du vaisseau doit être, et je cite l'introduction de l'ouvrage Green Planets, et c'est ma traduction encore, « contrôlée » et requiert une réévaluation des principes de base de l'économie. Doit-on alors exercer une politique écologique plus répressive dans une station orbitale? Ou est-ce que nos stations-nations, est-ce qu'elles appliquent la Spaceman Economy? Donc, dans ces mondes fermés, le système politique est donc d'une importance cruciale. En effet, il est impossible de partir pour trouver mieux ailleurs. Ciel brûlant de minuit est un roman qui critique le capitalisme sur un monde soumis au changement climatique en 2154. Deux méga-firmes se battent pour avoir le monopole. Samurai Industries et Kyocera Merck Ltd, deux multinationales japonaises pour lesquelles nous n'observons pas de différence majeure. Au début, nous pensons percevoir cette confrontation commerciale comme un modèle binaire, calqué sur les modèles politiques connus, républicains, démocrates, gauche, droite, conservateurs, libéral-démocrate. Pourtant, les deux pouvoirs ne semblent pas fondamentalement en opposition sur les idéaux, et ne sont en concurrence que sur le plan monétaire. La politique est d'ailleurs réduite à un jeu d'espionnage industriel. La station de Valparaiso Nuevo est une dictature sous l'égide d'El Supremo, parodie de cartel mexicain qui subit un coup d'État, car des conspirationnistes de l'État impérialiste d'Israël, alliés à la sinistre méga-firme Kyocera, veulent tirer profit de la vente des réfugiés au gouvernement terrestre. La station est décrite comme, je cite, « la dernière des glorieuses républiques bananières gouvernées par un vieux général sud-américain timbré, qui gagne sa vie en vendant sa protection à ceux qui fuient la justice ». Le terme de république bananière désigne donc un pays peu développé, dont l'industrie repose typiquement sur la seule production de bananes, est dirigée par une petite ploutocratie autoritaire, mise en place, aidée ou soutenue par des grandes multinationales de l'agroalimentaire, et par extension, pour Ciel brûlant de minuit, l'expression est plutôt utilisée pour qualifier toute forme de régime politique considéré comme dictatorial et corrompu, et qui doit son existence aux services qu'il offre aux multinationales, son indépendance et donc une menace au pouvoir en place sur la Terre. Quant à Elysium, il a tout d'un film se voulant d'une veine marxiste-léniniste des années 2010, avec une sorte de révolution d'octobre à la fin. Le héros, Max, alors ça me fait marrer de l'appeler Marx, mais Max est salarié d'Armadine, une usine de fabrication de droïdes, dont le patron se caractérise par son manque d'empathie. Max est utilisé par un groupe de rebelles pour infiltrer la station spatiale de Rich. Le scénario oppose des hors-la-loi représentant la classe ouvrière à des bourgeois. Il s'agit donc d'une révolte contre un pouvoir totalitaire et une forme de patronat corrompu. Le pouvoir politique est oppressif. 5 minutes. Bon, je vais faire très très vite parce que j'ai plein de trucs à dire. Le pouvoir politique est oppressif. Ce sont des robots qui sont les policiers, donc on peut pas communiquer avec eux. Ils vont pas trop comprendre. Ou faire preuve d'empathie. On a un clivage presque racial avec une politique migratoire sur la station qui est très stricte. Les migrants, on les tue. Et un film tourné avec des acteurs américains pour un public largement américain, où les pauvres parlent espagnol et les riches sont blonds. Et cela rappelle une période de l'histoire où les États-Unis se livraient à des exactions contre le Mexique, dans les années 1840, justement au moment où Henry David Thoreau écrit « La désobéissance civile ». Mais si on retrouve bien une sorte de justice à l'américaine où le libéralisme l'emporte à la fin, Henri Thoreau ne prône pas de lutte des classes, comme le marxisme, mais un retour à la nature ainsi qu'une résistance passive non violente. Donc des fois on retrouve des gens qui parlent de Thoreau avec Elysium, mais ça ne marche pas. Finissons avec le pouvoir politique de la station Tianzhou sur Shangri-La, contrôlé par un groupe composé d'hommes et de femmes dont le siège se trouve au 137e étage, excusez-moi, d'une tour qui loue le bonheur du salariat. Donc je vais vous lire, je sais pas si vous arrivez à lire les bulles. Notre but a toujours été que tout le monde soit heureux au travail, content d'œuvrer pour l'entreprise. C'est ça notre but, votre bonheur. Quel est le problème si ça marche? Si vous devez en échange être un peu moins libre? Vous n'êtes pas non plus réduit à un esclavage, à ce que je sache. Un peu plus matérialiste, un peu plus conformiste, un peu plus en sécurité, mais plus heureux. Ça n'a pas l'air de poser de problème à bien grand monde. Et le héros de répliquer « Vous ne mettez pas à disposition seulement des biens de consommation, mais une manière de vivre. Vous créez une dépendance artificielle de telle sorte que les gens ne se définissent plus par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport à ce qu'ils font. » Excusez-moi, j'ai mal réécrit. « Mais par rapport à ce qu'ils possèdent. » Vous ne nous faites peut-être pas de mal physiquement, mais en réalité, vous nous tuez spirituellement. Et ce faisant, vous tuez dans l'œuf toute idée de révolte. En sachant qu'on a il y a de la répression physique, hein, quand même, dans la BD, mais ça arrive après cette discussion. Donc nous avons ici un exemple de capitalisme d'État, où le marché est entièrement contrôlé par un État dirigiste. Mais la publicité à outrance sur la station pose problème. En effet, le système économique consumériste de Tianzhu va à l'encontre de la spaceman economy dont nous avons parlé. Comment peut-on encourager la consommation de masse dans un environnement qui demande du contrôle des ressources et une chaîne de recyclage? D'ailleurs, le parti opposé, donc sur la vignette de droite, le parti opposé qui mène la révolte ne convainc pas le héros, Scott. La leader souhaite conserver le même système économique en se posant en berger, comparant les humains à un troupeau qui ont besoin d'une hiérarchie. L'échec dans la BD, à la fois de la révolte et du pouvoir en place, est en soi une mise en avant, délibérée ou pas, d'une idéologie presque anarchique. Ah, ce sera ma dernière partie. Si Shangri-La et Ciel brûlant de minuit se finissent relativement mal, désolé pour le spoiler, les stations orbitales explosent. Nous pourrions penser que Elysium, sans compter la mort héroïque du héros, a une fin réussie. Rien n'explose. Après tout, les rebelles arrivent à pirater le réseau de la station spatiale et à envoyer de l'aide sur Terre. Et pourtant, il n'en est rien. Dans une interview accordée à Uproxx, le réalisateur Neil Blomkamp avoue qu'il a l'impression d'avoir raté son histoire. Donc là, vous avez une traduction de mon cru. Je n'ai pas le temps de vous la lire, donc je vais faire vite. Hein. Donc juste, il dit qu'il a l'impression d'avoir réussi le décor, la mise en scène, etc., mais pas l'histoire. Et donc à la fin, il dit que l'histoire n'est pas entière, n'est pas complète. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fin. Si le héros Max réussit sa mission, qui consistait à faire passer les citoyens terrestres pour des citoyens de la station Elysium, ayant ainsi les droits et avantages de ceux-ci en matière de soins, rien n'empêche les autorités de reprogrammer la machine. Rien ne met fin à l'abus du pouvoir des riches, rien ne permet à la Terre d'aller mieux, Il ne s'agit que d'une sorte de court répit, de la victoire d'une bataille plutôt que celle de la guerre. Est-ce qu'il aurait dû détruire la station? Je ne sais pas. Mais il devrait en sortir en deuxième. Ainsi, dans Shangri-La, Ciel brûlant de minuit et Elysium, la disparition du héros est inévitable. Le romancier et scénariste Alexis Lequet l'explique ainsi. S'il y a une spécificité de la SF par rapport au reste de la littérature, c'est dans son décor qu'elle s'exprime le mieux. Ses paysages sont souvent de véritables caricatures, des schémas cauchemardesques, mais leur existence répond à une exigence fondamentale. Ils doivent provoquer une réaction violente. Leur présence est un défi et par là même le moteur, l'aiguillon de l'action. Les villes sous globe ressemblent beaucoup à des cages où s'agitent des rats humains, agressés par les provocations de leur environnement, et une fois l'expérience terminée, annihilation pure et simple. Mais quelle est cette expérience? Cette expérience, c'est le fameux « what if ». Non pas de l'uchronie dont on a l'habitude en fantasy, mais de l'uchronie d'anticipation. Et si on abandonnait une planète? Et si on construisait une station orbitale? Mais si nous n'évoluons pas, l'échec est assuré. Dans Ciel brûlant de minuit, le coup d'État échoue, entraînant l'explosion de la station, seulement car les conspirationnistes étaient soupçonneux des uns des autres. Dans Shangri-La, c'est parce que les scientifiques ont fait preuve d'orgueil. La responsabilité est donc entièrement une faute humaine. On en revient à l'éternelle hubris de l'homme, telle que décrite dans Gilgamesh, ou dans le Timée et le Critias de Platon avec la submersion de l'Atlantide, et qu'on retrouve dans certains récits, ouvrages scientifiques sur l'anthropocène qui dit que la responsabilité est humaine, etc. Alors, comment s'améliorer? Comment doit-on lire, comprendre ces échecs? Si l'on parle d'échecs, on parle aussi de réussite. Les solutions semblent systématiquement être apportées par un mouvement rebelle ou contestataire. Nous pouvons donc en déduire que la seule façon d'éviter un futur funeste passe par le renversement des pouvoirs, voire l'anarchie. La violence inhérente à Shangri-La, Ciel brûlant de minuit et Elysium montre que la négociation n'a pas sa place. Faut-il alors céder à la violence maintenant ou solliciter? Je me dépêche, j'ai juste la conclusion là sur la même page. Je sais plus où j'en étais. Faut-il céder à la violence maintenant ou solidifier une nouvelle démocratie basée sur un modèle économique de la décroissance, type désobéissance civile, pour éviter une future possible violence? Lorsque nous lisons Shangri-La, nous sommes choqués par l'extrémisme de la société de consommation, la haine raciale et l'apathie, l'indifférence des citoyens. Il serait donc logique d'y voir par opposition une éloge de la décroissance, de la fraternité et de l'esprit critique. De même, Elysium critique clairement les inégalités sociales, tandis que Ciel brûlant de minuit alerte sur le changement climatique et les dérives d'un transhumanisme radical. Le message est clair, il ne faut pas attendre, la fuite ne nous apportera pas de solution, car le problème ne vient pas de la planète, il vient de nous. Et là, on pourrait se référer à ce que a dit Léna, trouver de nouveaux imaginaires politiques, etc. Donc, en conclusion... Pour conclure, la représentation de ces stations-nations imaginaires est une hybridation de mythes antiques et de visions scientifiques du XXe siècle. Je ne vous lirai pas, parce que j'ai pas le temps, la citation, mais qui me donne raison. Un avenir, donc, qu'on pourrait croire funeste, puisque Alexis Duquet parle d'avenir nébuleux. Pourtant, ces œuvres, bien qu'étant des dystopies, ne sont pas pessimistes dans le sens où les auteurs-réalisateurs ont l'espoir qu'elles ne se réalisent pas. Ils montrent le pire pour éviter le pire, pour ouvrir les consciences. Je ne vous citerai pas non plus la citation sur Shangri-La, qui me donne encore une fois raison. Ces récits font l'éloge de notre terre, notre maison, tout en nommant l'ennemi, nous et notre soif de progrès, d'argent, sans considération pour notre propre humanité, notre propre maison. Leur fonction est double. Ils alertent et éduquent. Les stations-nations sont des espaces fermés où tout est à son paroxysme et où les limites du capitalisme peuvent être analysées, expérimentées, observées. Les comportements humains sont décortiqués comme des animaux dans une cage. La notion de refuge flirte bien souvent avec celle de la prison. L'explosion finale marque non pas la destruction de la station seule, mais de tout ce qui est à la fois artificiel et industriel, alors que la Terre, elle, demeure. Et permettez-moi de citer un passage, par contre celui-là je vais le dire, du dernier chapitre de Ciel brûlant de minuit, alors que Carpenter, un des protagonistes, contemple la Terre depuis sa navette. Le mal n'était que provisoire, tout irait bien. Pas dans un premier temps évidemment, d'aucuns affirmaient que la planète était grièvement blessée. Eh bien, la planète finirait par guérir. D'autres avaient le sentiment qu'elle n'était que souillée. Dans ce cas, il lui faudrait un peu de temps pour se purifier. Mais elle y parviendrait. Elle y parviendrait, tout serait réparé. Même s'il fallait 100 ans, ou 1000, ou 1 million, elle se purifierait. La planète avait tout son temps, pas nous, se dit Carpenter. Mais elle, oui. La vie continuerait. pas nécessairement la nôtre, mais la vie sous une forme ou une autre. Tant pis si notre espèce doit être remplacée sur la Terre par une autre sorte de vie, puisque nous avons été de si piètres régisseurs de notre domaine, tant pis, une espèce s'éteint, une autre prend la relève, la vie est tenace, la vie est résistante. Et si j'ai choisi d'analyser ces stations en orbite autour de la Terre, c'est parce que l'espèce humaine est encore connectée à la Terre d'une certaine façon. Par la vue dans Shangri-La, par les navettes dans Elysium et Ciel brûlant de minuit, cette proximité immédiate permet aux protagonistes et aux lecteurs de maintenir une comparaison constante entre la station et la planète, et d'ainsi conserver un lien sentimental voire affectueux avec la planète mère. Et il serait intéressant, pour conclure, d'approfondir ces réflexions avec une recherche sur les œuvres d'anticipation de colonisation, où depuis peu l'humain est vu comme un nuisible, et plus comme un maître, sur les planètes convoitées, donc je pensais à l'ouvrage Colonie de Laurent Jeunefort qui est sorti l'année dernière, et qui nous rappelle qu'on n'est pas le maître de l'univers, mais un habitant de l'espace comme les autres. Voilà, merci.